This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversé. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 84 d'un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association Française des Critiques de Séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure entièrement consacrée cette semaine à une seule et unique série, dans une émission où l'on jurera sans dire de gros mots et où chaque critique comptera pour notre vie après la mort.
Next one.
Pierre Langlais de Télérama, je serai votre démon cette semaine et je torturerai Marie Turcan de Numérama. Bonjour Marie.
Ravie.
Et Delphine Rivet et Marion Olité de Combini. Salut à vous deux.
Salut.
Hello.
Au menu cette semaine, donc, une seule et même série, The Good Place, comédie post-mortem, délirante, colorée, philosophique et existentielle, créée par Michael Schur, lancée il y a 3 ans et qui ne cesse depuis de se réinventer. Pourquoi est-elle une réussite? Quelles sont ses qualités, ses limites peut-être? On s'empresse de mourir pour rejoindre la Good Place tout de suite dans un épisode des Jarrettes.
I have some questions.
Don't you mind?
How did I die? I don't remember.
Yes, In cases of traumatic or embarrassing deaths, we erase the memory to allow for a peaceful transition. Are you sure you want to hear? All right, so you were in a grocery store parking lot. You dropped a bottle of something called Lonely Gal Margarita Mix for One. And when you bent down to pick it up, a long column of shopping carts that were being returned to the shopping cart collection area rolled out of control and plowed right into you.
Oof. That's how I died.
No, sorry, there's more. You were able to grab onto the front of the column of shopping carts, but it swept you right out into the street where you were struck and killed by a mobile billboard truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate.
Soyons forking précis, chers amis, et faisons en sorte que nos auditeurs ne nous traitent pas de son of a bench, comme on dit dans la série. Cette émission sera pleine de spoilers, car oui, après 3 saisons, on ne peut plus se contenter de vous recommander The Good Place. On l'a déjà fait plusieurs fois, d'ailleurs. Il faut désormais l'analyser en profondeur, et si on ne discute pas des changements de la série, eh ben, on va pas aller bien loin. Voilà, comme ça, pas de bullshit. Commençons par le commencement tout de même, et le pilote de The Good Place, dont on a entendu un petit extrait, parce qu'au départ, et durant la majeure partie de sa première saison, la série avait l'air d'autre chose que ce qu'elle est devenue, non, finalement, Marie?
Ah oui, tout à fait. Pardon, j'étais perdue dans ce...
Les souvenirs que...
cette histoire.
Quand on repense au premier épisode, le potentiel était là, hein, mais c'était autre chose, peut-être.
Non, mais il y avait complètement... Pour moi, c'est, au début, c'est, bah, le final vient tout bouleverser. Donc, on se retrouve à plus du tout comprendre ce qu'on regardait dès le début. On a été assez... donc, on est embarqué dans The Good Place pendant un bon moment. On comprend pas trop, ça fait des blagues. Il y a des personnages sympas. Et à la fin de la saison 1, on apprend que The Good Place n'est pas vraiment la Good Place.
Ah, tu spoil comme ça direct? Mais on va y aller.
Mais non, mais parce que c'est ce qui est le plus important. Oui. Parce que ça fait partie de ce que Mike Schur a voulu faire. C'est-à-dire, il nous ment, en fait. C'est un peu tout ce qu'il fait pendant ces 3 saisons. Il nous ment pendant longtemps pour ensuite s'appuyer sur un twist à la fin et nous apporter un big reveal. Et du coup,
Alors, on est quand même resté jusqu'à la fin de la saison 1 et on ne savait pas qu'il y aurait un big reveal, comme tu dis. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on s'est accroché quand même? À quoi ça ressemblait au début, The Good Place, Delphine?
Alors, bah, le plus gros mensonge de Mike Schur, c'est de nous avoir fait croire que c'était une série à concept, en fait. C'est-à-dire que c'est ça, en fait. Le pilote... Tu t'as l'impression que t'es dans une série à la Lost, où t'as un concept très très fort au début, et là, normalement, en tant que critique de série, on se dit cool, mais comment ça va tenir sur la durée?
Pour toi, c'était quoi le concept que tu croyais?
Pour moi, le concept, c'était ce concept de Good Place, de paradis un peu farfelu. Et donc, c'était une série sur la vie après la mort, quoi, en gros.
Oui, avec quand même un élément déclencheur, ce qui est classique dans une comédie.
Oui.
C'est l'arrivée de quelqu'un qui n'a rien à foutre là.
Voilà, un élément perturbateur.
Eleanor, qui, a priori, avait quand même nettement sa place dans la Bad Place, en enfer, pour dire les choses simplement. Ouais. Et qui se dit, merde, il y a eu une erreur. Bon, bah, je vais essayer de feinter et d'éviter le truc. Et au fur et à mesure, on comprend que, c'est pas si simple.
Et au départ, c'était Eleanor, on pensait... en tout cas que c'était elle l'héroïne de la série. Et en réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que c'était un ensemble show.
Typique de Mike Schur et de ce qu'il
exactement
sait faire dans ses comédies.
Oui, parce que Mike Schur,
elle a plein de points communs avec...
Parks and Recreation, Mike Schur, notamment. Ouais. Enfin voilà, pour donner un petit peu... Parce
oui,
qu'on
il a co-créé Brooklyn Nine-Nine, il a bossé sur The Office. Enfin, il y a plein de points communs entre The Good Place et ses précédentes séries.
Oui, d'ailleurs, on aurait pu se dire que c'était une sorte de comédie de bureau, le bureau étant le paradis. Mais bon, c'est plus compliqué que ça aussi.
Oui. Oui, oui, non, mais en plus avec ses séries chorales, justement, lui, ce qu'il aime faire et qu'il a fait donc sur ses séries précédentes aussi, c'est vraiment un truc qui l'insuffle à chaque fois, c'est qu'il a un groupe de personnes qui s'entendent relativement bien et qui sont relativement soudées, et les éléments perturbateurs justement viennent de l'extérieur, parce qu'il en faut, il faut des antagonismes pour faire avancer les intrigues et tout, et à chaque fois, que ce soit sur The Office, même si se chamaillent entre eux, c'est toujours, ça va être un problème de vente qui se fait pas à l'extérieur. Ça va être sur Parks and Rec, c'est pareil, c'était les gens de la bibliothèque qui pouvaient pas supporter et qui venaient foutre la zizanie dans le service. Donc c'est souvent un groupe assez soudé finalement et qui l'intrigue avance par ces éléments perturbateurs qui viennent de l'extérieur. Et The Good Place, c'est ça.
Oui, alors quand même d'entrée de jeu, il y a quelque chose qui est établi et qui, quand on y repense aujourd'hui après avoir vu la troisième saison, et ben finalement c'est toujours un des sujets de la série. C'était comment devenir une personne meilleure. Ça apparaissait assez rapidement, on comprenait le système de points de The Good Place. Dans la vie, vous faites des bonnes et des mauvaises actions, ça s'additionne et hop, vous pouvez aller au paradis. A priori, vision très classique de ce que pourrait être le paradis et des bonnes actions qu'il vaut mieux faire. Est-ce que finalement, ça n'a pas laissé place à une réflexion plus complète? En gros, quelle était la réflexion existentielle de départ? Est-ce que c'était bien ça? Et est-ce que la série, finalement, encore une fois, nous a menti?
Bah, elle est plus complexe qu'elle en avait l'air. Moi, du coup, au début, j'étais pas hyper emballée en fait dans les premiers épisodes. Je me suis accrochée parce que aussi j'ai des petits camarades qui ont fini avant moi à la fin de la saison 1 et du coup qui m'ont motivée à continuer.
Pareil.
Et au début, le concept vraiment le bien d'un côté, le mal de l'autre, des blagues au milieu. Je sais pas, je trouvais ça un peu simpliste, la dichotomie entre les deux, un peu moralisant aussi les fins d'épisodes où c'est toujours à la fin. Mais en même temps, bon, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Elle est bienveillante cette série, mais au fil des saisons, elle a développer une philosophie beaucoup plus complexe. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est très compliqué de faire que le bien ou que le mal. Souvent, on a fait un peu des deux dans sa vie, quoi. Et du coup, c'est comment trouver l'équilibre pour être une personne qui peut se regarder quand même dans un miroir. Donc, je trouve que cette réflexion-là, elle a été de plus en plus complexe et c'est ce qui m'a aussi gardé, plus aussi le côté méta de The Good Place.
Alors, évidemment, on va parler de tout ça et de ce que dit la saison 3 par rapport à cette notion d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, d'être bon, entre guillemets. Tu sous-entendais qu'il n'y avait pas vraiment de grands méchants. Alors, il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que la dynamique n'était pas celle-là. Quand on y réfléchit, une des grandes forces de The Good Place, c'est quand même que, à l'exception peut-être de Michael, qui paradoxalement est un démon, donc ça devrait vraiment être un salaud, les personnages, fondamentalement, ne sont pas hyper attachants. C'est des gens qui sont pas très sympathiques, la bande.
Ouais,
tous pour des raisons différentes.
Et en même temps, s'ils avaient vraiment eu leur place dans la Good Place, donc si ça avait été des gens parfaitement altruistes et gentils, enfin moi ça m'aurait pas intéressé des masses et je pense que j'aurais pas été la seule. Donc finalement, c'est le fait que ce soit des personnes imparfaites comme nous, quoi, qui sont et puis aussi parce que très très rapidement on apprend à les connaître et à les adorer. C'est le processus est assez facile. Là,
et puis on comprend tous qu'en fait ils avaient a priori rien à faire au paradis, juste pour les donner. Même si ceux qui écoutent le podcast, sans doute puisqu'on a annoncé que c'était plein de spoilers, ont vu la série. Mais donc Eleanor, qui est, pour parler poliment, une fille pas très sympathique, voire une peste. Tahani, qui est une pourrie gâtée, égocentrique. Chidi, qui est peut-être le plus sympathique naturellement de la bande, mais qui est quand même bien lourd et qui est un psycho rigide. Et puis Jason, qui est clairement la définition de la brutie de base.
Mike Shore l'appelle son ding-dong. Donc, voilà, c'est un ding-dong.
Marie, je t'ai senti motivée.
Oui, non, je trouve que justement, c'était peut-être ça qui nous a empêchés de rentrer vraiment dans la saison 1. Il y avait ces quatre personnages qui étaient clairement pas les meilleures personnes du monde, qui étaient censées être dans la Good Place. Et on a mis quand même assez longtemps à démonter ce truc, à nous expliquer que en fait ils étaient mauvais et que c'était pour ça qu'ils étaient là. Donc, c'est pour ça que je parlais d'un concept, je trouve, et là c'est quand même assez parlant que vous êtes deux à avoir dit non, en fait j'avais envie de m'arrêter, mais quelqu'un avait fini avant moi, alors j'ai continué. En vrai, cette première saison, elle était pas très bonne. Hein. Enfin, rappelez-vous le début.
Elle était sympa.
Il y avait des. Franchement, j'ai énormément d'amis qui ont arrêté parce que c'était des vannes un peu lourdes, parce que justement les personnages sont très clichés et pour le coup, le côté Tahani va toujours dire la même chose et parler de célébrité et puis Jason est vraiment débile. Franchement, les personnages débiles, j'en peux plus depuis Joey. Enfin, j'en ai ras-le-bol. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit. Pff, et je suis restée parce que manque de bienveillance, monde de merde, le cynisme est partout et du coup j'avais besoin d'un échappatoire. Mais c'est quand même assez important de rappeler que cette série, elle se prend dans son ensemble et certes, quand on en parlera dans 10 ans, on dira ouais super, c'était vraiment un super concept et en fait ils ont retourné la situation tout le temps et ils jouent avec nous. Mais il y a eu quand même des épisodes vraiment mauvais.
Et puis il y a quand même deux personnages qu'on n'a pas cités pour l'instant et qui peut-être sont ceux qui ont permis à l'ensemble de devenir vraiment attachant. C'est Michael, d'une part, qui est peut-être le personnage qui, même pas peut-être, c'est le personnage qui évolue le plus. Et Janet, l'intelligence artificielle, qui, d'un personnage secondaire, est devenue un petit peu la mascotte de la série et sans doute le personnage le plus malin et le plus original.
Mais pour les personnes qui regardent Brooklyn Nine-Nine, Janet et Michael, pour moi, c'est Captain Holt et Gina. C'est les deux mêmes personnages, en fait. C'est le même concept de tu viens dans la série, tu sais pas que c'est pour eux que tu vas rester, mais en vrai c'est eux qui portent tout et c'est eux qui deviennent les vraies stars. C'est le Ron Swanson de Parks and Rec, c'est typique de Michael Schur, en fait c'est les mêmes mécanismes et on tombe dedans à chaque fois parce que c'est hyper bien fait, c'est malin et c'est pour eux qu'on reste parce que les autres vont commencer à nous être assez antipathiques.
Oui, et puis paradoxalement, c'est eux qui sont les plus... C'est les non-humains, quoi. C'est ça qui est... Est-ce que ça serait pas aussi un échec de la série que ça soit les moins humains qui sont les plus attachants?
Non, parce que c'est
sur l'humanité, quoi.
C'est les moins clichés, c'est ceux qu'on a moins vus. Janet, c'est un personnage qu'on n'a jamais vu. Et ça, je trouve ça vraiment fort.
Et puis c'est ceux qui, justement, sont en décalage et ils apprennent, justement, au contact des autres.
Oui, non, moi j'aime beaucoup le personnage de Janet parce que déjà elle est quand même très très drôle dès la première saison. Il me semble qu'il y a une scène qui m'a vraiment fait mourir d'horreur pour le coup parce que tout n'était pas réussi, mais c'est une scène où elle doit elle doit tuer quelqu'un sur le bord de la plage là où
c'est Michael qui doit la rebooter.
Ah oui, et elle doit faire et donc du coup elle dit attention parce que là je vais faire semblant d'être de devoir vous supplier et tout et donc elle joue très enfin elle a, cette actrice est géniale et en fait elle joue c'est un robot, mais en fait elle singe tellement bien elle singe tellement bien du coup les sentiments et les trucs un peu clichés des humains qu'elle en est irrésistible en fait.
Et si je puis me permettre, alors moi j'aime beaucoup Michael parce que c'est un personnage, bon déjà Ted Danson déjà et puis c'est un personnage qui finalement c'est censé être le boss et en fait c'est le plus flippé de la bande quoi. C'est finalement moi je trouve le plus humain parce que c'est celui qui découvre, qui apprend, qui
quand il découvre sa propre mortalité c'est à mourir de rire.
C'est lui qui est le plus curieux, qui apprend Eleanor aussi mais qui apprend la philosophie. Enfin voilà qui est finalement celui qui devait être le guide et qui devient le guidé presque. Et c'est ça moi je trouve, j'ai trouvé très émouvant cette évolution là justement d'évolution de la série, parlons-en.
It took me a while to figure it out. But just now, as we were all fighting and yelling at each other and each one of us demanding we should go to the bad place, I thought to myself, man, this is torture. And then it hit me. They're never gonna call a train to take us to the bad place. They can't. Because we're already here. This is the bad place.
Oh, man. I can't believe you figured it out. Oh, God. You ruined everything, you know that?
Et puis, chers amis, on le disait à la fin de la saison 1, boum, twist énorme, on comprend que la good place est en fait l'enfer, la bad place, et que les personnages qui sont loin d'être des saints, on l'a dit, sont en train de se faire torturer sous nos yeux, plus précisément se torturent les uns les autres. Retournement génial ou retournement génial?
Tu veux y aller, Marie?
Je pense que c'est un retournement génial. C'était ça qu'on attendait comme réponse. Il me semble que je suis vraiment tombée dans le panneau, moi. Personne ne m'avait prévenu. Et du coup,
ouais, je savais qu'il allait se passer un truc
incroyable. J'ai bien apprécié. Moi, je savais même pas. Donc, ça m'a encore plus surprise. J'étais ravie. Et je pense qu'une partie de moi était soulagée de me dire, enfin un truc. Ça change. Enfin, il va y avoir quelque chose d'autre. Et ça, pour le coup, c'est très nouveau dans les séries.
Surtout dans les comédies, ouais.
Et dans les séries qui sont pas binge-watchables, parce que certes, certes, elle est diffusée sur Netflix en ce moment, mais elle ne vient pas de Netflix à la base. Elle était diffusée par un network américain.
NBC.
Toutes les semaines, semaine après semaine. Et ça n'existait que très peu avant dans d'autres séries. Tu vas sûrement en citer plusieurs, Pierre, dans les retournements de situation, dans le fait d'attendre chaque semaine quelque chose et de se dire, oh là là, mais je vais devoir attendre 6 mois pour connaître la suite. Et ça, cette espèce de sentiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti
ça. Ah, Waymate faisait un peu ça. Mais sur une structure très différente.
Pas du tout sur un retournement à
non,
ce point-là.
Il y avait non, mais il y avait des histoires de temporalité qui fait qu'on se demandait qu'est-ce que c'est que le pineapple, pourquoi il y a
ouais, c'est vrai.
C'est un cheval ou non, c'était quoi mais une chèvre.
En fait, elle jouait
pourquoi
sur
il y avait
une...
des trucs qui apparaissaient dans l'appart. Enfin, voilà, il y a
des choses. Elle jouait sur une narration déstructurée.
Ouais.
Chose que n'a pas fait The Good Place, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, elle cherchait à être un peu imprévisible et on pouvait pas toujours, on pouvait pas toujours se dire, on sait comment ça va finir en fait.
Ceci dit, puisqu'on parle de la saison 2 de The Good Place, c'est pas loin d'être une narration déstructurée, parce qu'en fait, c'est un recommencement éternel en gros, c'est le test, quoi. C'est,
oui, mais d'un point de vue narratif, c'est bien
linéaire.
C'est beaucoup plus linéaire, mais c'est qu'on tourne quand même.
Ce qu'ils ont fait avec le final de la saison 1, c'est un peu aussi une façon de tester les réactions, peut-être aussi du public, parce qu'après, des twists comme ça, on en a pendant la saison.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en plein milieu de la saison, ils vont rebooter leur propre série, quoi. Non, mais c'est impressionnant.
Est-ce que ça fait que la comparaison, tu en parlais, Marie, on a dit, ouais, c'est comme Lost. On ne cesse de parler de Lost, on a encore parlé de Lost.
Non, mais. Qui dit c'est comme Lost?
Sur les réseaux sociaux, les gens, voilà.
Qui sont ces gens?
L'internet. Qui sont ces gens? Je voudrais pas balancer, mais il y a un membre de la CS qui il y a pas longtemps a comparé encore à Lost. Okay. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait plutôt à The Leftovers, la fin de la saison 3. Mais bon, c'est moi que ça regarde, je trouve que tout ressemble à The Leftovers.
Enfin,
oui, tout ce qui est bien ressemble. Mais non, mais je trouve qu'il y avait la même idée. Il n'y a pas de solution. Enfin, il n'y a pas de voilà, ouais. Le problème n'est voilà, bon, on se comprend tous ceux qui ont vu la série, les autres vous êtes complètement largués, on est désolé. Donc en gros, est-ce que c'est une comparaison pertinente? Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on regarde The Good Place? C'est pour, comme dans Lost, parfois à la fin des épisodes, faire « Oh là là, mais c'est quoi ?» comme les Américains disent « Mindfuck ».
Non, je pense pas du tout. Je pense qu'on regarde, on reste pour la même raison pour laquelle on est resté dans la saison 1, c'est-à-dire les personnages, la bienveillance, l'humour, les références méta, tout ce qui fait l'humour de Mike Schur et qui fait la qualité de la série. Pour moi, c'est vraiment des bonus ce qu'il nous propose. Maintenant, il sait très bien qu'il peut continuer longtemps sur ce modèle-là, avec ces personnages que tout le monde aime, ça va durer. Je pense que ça va s'essouffler. On va avoir le cœur brisé comme moi pendant la saison 6 ou 7 de Parks and Rec, j'en pouvais plus de ces personnages. J'avais juste envie qu'ils se taisent. Mais je les aimais tellement que je suis restée et je ne voulais plus rester. Et ça va être ça. Mais tant mieux, je resterai encore. Mais j'ai quand même bien peur.
Il y a quand même plein de trouvailles de narratives, des choses très étranges, des épisodes. Il y a eu un épisode là dans la saison 3 où tous les personnages sont joués par Janet. Il y a des choses comme ça. Oui. Est-ce que c'est pas peut-être.
Moi,
contrairement à la saison 1 qui était très très accessible, qui fait que finalement c'est une série qui s'est refermée et qu'il y a un public qui est hermétique et qui dit ouais c'est Pork Nawak, moi j'ai envie d'une histoire plus simple, plus claire, et que ça peut être un petit peu diviser le public.
Moi je suis quand même très surprise de voir la popularité qu'elle a, cette série qui est pourtant si particulière, et de gens qui ne regarderaient pas, à qui je ne conseillerais pas spécialement ce genre de série, qui finalement nous disent qu'ils la regardent en fait. Donc
moi ça me choque pas parce qu'elle récompense vachement les gens fidèles et qu'il y a beaucoup de gens, et notamment il y a pas mal de personnes qui aiment la culture geek et qui aiment les Marvel par exemple, et quand tu regardes des films Marvel, t'as toujours des petits clins d'œil, t'as toujours les mêmes choses qui se passent et les mêmes références, et dès qu'il y a une vraie référence, et tout le public faire oh, on se comprend, on est entre nous. Et ben The Good Place joue beaucoup là-dessus, en jouant sur les private jokes et sur les trucs qui les running gags. Je voulais pas enchaîner deux anglicismes.
Non mais elle s'est créé son monde, et je pense que moi ça me gêne pas en saison 3. Oui, elle s'est recréée plusieurs fois son monde. Et en saison 3, en fait, moi ça me dérange pas qu'il y ait plein de références méta et qu'il y ait des épisodes complètement barrés comme celui avec Janet. Enfin, le public qui regarde la saison 3 de The Good Place, il a déjà vu les deux premières. The Good Place, c'est peut-être le problème qu'elle va avoir, c'est qu'il faut toujours qu'elle augmente les enjeux pour nous surprendre. C'est ça aussi. Moi j'ai très peur. Juste j'ai peur des twists de The Good Place. Au bout du deuxième ou troisième twist, je me disais tout. Et heureusement, Michael Shore m'a donné tort, hein, mais je me disais toujours, ah oui, non, mais là, ça va être du déjà vu, c'est pas possible, on va, enfin. Et il réussit quand même, il réussit. Mais là, le tout dernier twist de la dernière saison, je suis un peu sceptique.
Et moi, j'étais sceptique sur celui qui a ouvert la saison 3, qui était quand même, en gros, est-ce qu'une série qui se réinvente en permanence, fatalement, elle va être inégale. C'est-à-dire qu'il y a des twists qui vont nous plaire, il y a des changements de décor. Il y a pas mal de gens qui ont dit, ah ouais, non, on a quitté la Good Place, on a quitté ce décor qui était tellement tellement bien, qui était tellement intéressant et tout, pour aller dans la vraie vie, entre guillemets, on a perdu quelque chose. C'est tout à l'honneur de la série de se réinventer, mais c'est risqué.
Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est une encore plus grosse arnaque, en fait. C'est juste que, à mon avis, cette série a été construite sur des twists. Et qu'il y a des moments où on meuble, et on meuble beaucoup. Le début de la saison 3, c'est d'un chiant. Vraiment, mais j'ai mis du temps, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai suivi tous les épisodes semaine après semaine. Et je me suis dit, ça y est, c'est fini, en fait. Et voilà que ça revient vers la fin. Et là, ça revient pas avec un twist, je trouve. Je trouve que ça revient juste parce que ça devient plus intelligent, plus poussé, plus sombre peut-être, ce qui fait un peu la qualité du truc. Mais globalement, on sent que quand on comprend que tout a été construit pour le twist de la fin de saison 1 et qu'on comprend qu'ensuite tout a été construit pour les twists dans la saison 2, on se dit mais est-ce qu'il n'y a pas des moments quand même où tes épisodes ils étaient un peu là pour rien dire ?
Delphine.
Ouais, mais le souci qu'elle va très très rapidement rencontrer, c'est qu'elle ne peut pas se permettre de faire du surplace, elle ne peut pas se permettre de réinstaller tous ses personnages dans la Good Place et de ne rien chambouler à chaque fois. Donc on va être malheureusement, je pense qu'on va tomber assez rapidement dans la surenchère de twist. Ouais. Pour l'instant, c'est super bien écrit. Moi, j'ai du mal, contrairement aux personnes autour de la table, j'ai du mal à lui trouver des défauts. Je l'ai regardé aussi parce que j'adore Michael Schur, qui glisse plein d'easter eggs, que ce soit des propres références à ses séries passées ou, le patron de Michael, il a une tasse avec marqué Existence Best Boss et c'est une référence à
The Office.
À Michael Scott, de The Office. Donc, c'est hyper riche et tout. Mais, effectivement, malgré l'intelligence de Michael Schur, je pense qu'à un moment, il va se heurter à ce problème.
Marie disait que ce qui nous fait rester sont les personnages. Quand même, le twist de fin de saison 3, alors là, évidemment, on peut pas faire plus spoiler, mais c'est un twist qui est essentiellement émotionnel. C'est-à-dire que c'est un twist.
On spoil ou pas? Enfin, je sais pas.
Bah, on peut, oui. Bah, on a prévenu. Donc, si vous avez pas vu la saison 3, arrêtez tout de suite.
Je sais pas si j'ai vu le dernier épisode de la saison 3.
Je suis désolé.
J'ai peut-être vu l'avant-dernier,
mais il y a une forme de, il y a un reboot. On dira pas de qui. Il y a un reboot. Et c'est une manœuvre unique, enfin, quasi uniquement émotionnelle.
Bah oui, parce que là, c'est pas un reboot du décor.
C'est un truc sur l'amour.
Voilà, c'est pas un reboot de, on vous place dans un autre endroit différent et vous allez pas. C'est un reboot hyper sentimental. J'ai chialé, Marie.
Vous a touché.
C'est amené un peu artificiellement. Le problème, c'est que c'est amené un peu artificiellement.
C'est le mec qui se rend compte. Il fait, je suis sûr, il n'y a qu'une solution. Il faut faire ça. Et tout le monde fait, mais non, il y en a 10 000 des autres solutions. Qu'est-ce que tu fais? Non, je me sacrifie pour vous. Non, c'est vraiment, on dirait un peu un cliché.
Oui, mais Michael dit lui-même, non, mais on va faire un truc, on va faire une espèce de brainstorming. Et moi, je vais vous dire, attends, mais c'est ça la solution. Et voilà. Donc, il a même conscience de ça.
Et que même, c'est pas sûr qu'au début de la saison 4, on comprenne qu'en fait, c'était pas ça et que c'était une arnaque et qu'on s'est fait tout savoir. Voilà. Espérons-le.
J'espère.
What do we owe to each other? That is the question Tim Scanlon asked decades ago, and it is the question I will try to answer over the next 3 hours.
Ugh, no thanks.
We all have a voice in our head. That voice doesn't tell us what to do or not do, but it does warn us when we do things that don't feel good or right. The difference between reasonable. What does it mean to be a reasonable person? I may have a different definition of reasonable. So why do it then? Why choose to be good every day if there is no guaranteed reward we can count on now or in the afterlife? I argue that we choose to be good because of our bonds with other people and our innate desire to treat them with dignity. Simply put, we are not in this alone.
Ce qui fait aussi de The Good Place une sorte d'hyper-comédie de la fin des années 2010, c'est son côté méta. Comment se sert-elle de cet outil ô combien à la mode? Tu l'as évoqué rapidement, Marion, tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on l'aime.
Oui. Clairement, c'est-à-dire que déjà le fait qu'elle joue, qu'elle ait trouvé ce truc de faire des pour éviter de dire des insultes, mais pour en dire quand même de dire bouge cœur, enfin parce que du coup comme ils sont censés être dans la Good Place, ils n'ont pas le droit de dire des insultes, donc quand ils en disent, c'est transformé. Enfin bref, et ça là-dessus ils jouent avec ça depuis 3 saisons, donc ils se sont fait eux-mêmes leur propre la série, elle est méta envers elle-même et effectivement elle cite aussi après plein d'autres références ciné, films, bouquins. Et ça, si tu les as vus, ça fonctionne, quoi. C'est très drôle. Enfin, ça, Michael Schur, on sait qu'il écrit très bien ce genre de blagues.
Ça permet d'investir vachement le public. Évidemment, les blagues en citant des personnes qui existent, genre Brad Pitt, toutes les stars y passent, en fait.
C'est le name dropping
surtout
de Tahani.
Surtout à travers Tahani. Ouais.
Il y en a une très bonne sur la fin de saison 3, c'est le dating entre Ruth Bader Ginsburg et Drake, si je dis pas de bêtises, qui est d'ailleurs rappelée deux fois, parce qu'elle marche bien, donc on la met deux fois, c'est bon.
Ouais, c'est très drôle, parce que c'est le blogueur un peu people qui
a réussi à mettre ensemble.
Qui demande quel était le couple le plus scandaleux, le plus incroyable, et Janet dit c'était Ruth Bader Ginsburg avec Drake, et en fait c'est Tahani qui les a foutus ensemble. C'est très drôle. Mais en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que on apprend qu'il y a des vannes qui ont été rajoutées un peu par hasard et qui ont existé de façon un peu fortuite comme ça, et qu'après, quelques épisodes après, ils vont rebondir dessus, donc elle va entrer dans la mythologie de la série. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, je suis désolée.
Mais quand je parlais de méta, c'est pas seulement dans les dialogues, c'est aussi dans le fait que c'est une série, alors c'est pas Westworld, mais on n'en est pas loin, c'est une série sur la fabrication d'un récit. C'est-à-dire, c'est une série où littéralement le décor est fabriqué de toutes pièces par les personnages eux-mêmes, qui le recréent, qui le font évoluer. C'est pour ça que, Marie, tu sous-entendais que ça pouvait durer éternellement, c'est-à-dire que c'est presque une simulation, c'est une simulation d'ailleurs, particulièrement à la fin de la saison 3. Donc finalement, on est presque dans une pièce verte avec des murs verts, et tout est en numérique et on peut tout changer à volonté. Et ça, c'est passionnant, c'est une arène.
Dans la Good Place.
Ouais, c'est une arène totalement évolutif.
Tout peut changer.
Et c'est vrai que quand les comédies sont souvent dans un salon, un pub, un truc, dans des décors qui sont très... Parce que finalement, on n'est pas loin de la sitcom, il n'y a pas de rire enregistré, mais on est dans un décor clos très souvent. The Good Place a vraiment une inventivité assez rare, quand même.
Mais Michael a ce rôle-là en tant qu'architecte, d'ailleurs. On le voit à l'œuvre. C'est un scénariste, en réalité. Quoi. Quand il fait les multiples reboots parce que ça ne marche pas et qu'à chaque fois, les personnages vivent leur propre vie, c'est comme si ces personnages sortaient de la page et avaient une vie indépendante. Eh bien, il arrache la page et il recommence.
Et puis, il y a une chose très rare, The Good Place, on parlait des jokes. D'ailleurs, il y a une que j'aime beaucoup, je la cite, hop, je l'avais marqué sur mes notes. Je torturais Shakespeare en lui parlant du film Entourage. Alors là, c'est très pointu quand même. Il faut savoir à quel point le film Entourage est pourri, mais c'est dire à quel point il pousse loin quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait compris la blague de la torture.
Moi,
du film Entourage.
Moi, j'ai pas vu Entourage et pourtant j'ai compris la blague.
Oui. Et puis, il y avait l'affiche aussi de Pirates des Caraïbes qui se trouve dans la vraie Bad Place aussi. Pirates des Caraïbes 8 ou un truc, un chiffre de dingue.
Alors, il y a aussi des jokes sur des philosophes, ce qui est quand même un peu une des spécificités de The Good Place. C'est quand même une série qui prend la philosophie très au sérieux, qui
sympa.
Cite directement et tout. C'est juste,
ma pisse froide.
Non, mais est-ce que ça en fait une comédie intello et une comédie, parce que on pourrait écrire, d'ailleurs je suis sûr qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui est en train de le faire, une thèse sur la philosophie dans The Good Place, ça doit pouvoir se faire.
Oui, on peut demander à un philosophe ce qu'il pense de The Good Place.
Aussi, et d'ailleurs c'est ce qui fait un lien avec Lost. Parce que pour le coup, voilà une série dont les personnages portaient des noms de philosophes.
Oui, c'est vrai. Mais là, dans The Good Place, en fait, c'est vraiment, on assiste à des cours, quoi.
John Locke.
Hein.
Oui. Donc, c'est un peu didactique.
C'est un peu, il y a des aspects pour ça, The Good Place. À la fois, c'est cool parce que ça parle de philosophes. On parle quand même très rarement de philosophes dans les séries.
Spinoza est pas mal cité, je crois.
Mais c'est assez pédago, quoi. On voit, Chidi qui essaie d'expliquer à Léonore
finit par claquer des références de philosophes. Et c'est cool. Et c'est vrai que c'est pas souvent que les philosophes sont cool.
En fait, ce qui serait intéressant, c'est de savoir que, au point de vue de la série en général, dans quelle morale et dans quel courant philosophique elle s'inscrit particulièrement.
Eh bien, justement, Marion, t'écoute.
Eh bien, particulièrement, on s'inspire de l'expérience et du fait que ce qui s'est passé sur Terre a une influence dans l'afterlife, l'après-vie. Pas fait de philo, j'ai fait un bac S, hein, laissez-moi. Mais globalement, c'est intéressant parce que sous couvert de parler de tout et de dire bon ben on parle de tous les philosophes, on est hyper intelligent, elle pousse un argumentaire qui est assez restreint au final. Et si tu veux en parler, enchaîner là-dessus.
Bah c'est dans la saison 3, qu'il y a un bug.
Il y a un bug.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au paradis, c'est impossible. Même le type le plus appliqué qui vit une vie de sacrifice total n'ira pas à la Good Place.
Et donc, pour pourquoi il n'ira pas à la Good Place ? Parce que le monde maintenant est trop complexe. Et ça pour moi, c'est là où ça a enfoncé un petit peu mon désarroi et ma circonspection. C'est le côté avant c'était si simple et maintenant c'est si compliqué. Et du coup, t'es un peu là en train de te dire, bon, pour expliquer, du coup, les personnages de maintenant, ils peuvent plus aller dans la Good Place parce que dès qu'on consomme une tomate, et ben ça veut dire qu'on a exploité quelqu'un en Malaisie et
qu'on
puis
a pollué
ça,
avec qu'on le a transport pollué, aérien.
Parce qu'avant c'était vraiment si simple et que tout le monde on mangeait les blés dans les champs comme ça, ça croquait sous la dent. et du coup, il y a cette
série réactionnaire The Good Place.
Je suis un peu gênée pour la fin. Je trouve que c'est un peu limité comme argumentaire. Après, c'est que deux épisode, on n'en parle plus après. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller dans la saison 4, mais je pense que là, on prend un virage qui, moi, va rapidement m'ennuyer.
Mais qui est peut-être dans le questionnement de ce qui fait que la notion de bon et de mauvais est évolutive.
Ou alors, on ne vient même pas de toi, en fait. Parce que du coup, ça enlève tout le soi dans la décision, en fait.
Je pense qu'il faudrait demander à un théologien américain aussi ce que dit la série du rapport des protestants avec le paradis. Parce que c'est pas le même. Enfin, c'est compliqué. Ouais. Tu sais, les points, justement. Je dis pas de bêtises. Est-ce que le protestantisme, en gros, t'es prédéterminé? C'est mort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme dans le catholicisme où je crois qu'en fait, c'est en fonction de ton comportement sur Terre que ta vie après la mort est déterminée. Enfin, je suis pas spécialiste de la question, mais je pense que c'est intéressant aussi pour les Américains. On a le temps pour une dernière question. Tu disais que c'est une série qui était un peu populaire et tout, mais les audiences sur NBC, c'est pas non plus soit à 5 millions et des patates.
Ouais, on ne connaît pas les audiences de Netflix.
Est-ce que l'international peut porter la série? Et puis, quoi qu'il en soit, est-ce que c'est une série qui doit durer, peut durer? Nous, évidemment, on est un peu fans, mais on sait très bien qu'il y a des séries, pour en prendre une dont on a parlé aujourd'hui, Lost, qui ont connu quelques déboires. Est-ce que les séries à concept, comme ça, il faut mieux pas qu'elles soient un peu comme The Leftovers, trois saisons et puis s'en va?
Ni les séries à concept, ni les sitcoms, en fait. Enfin, on sait très bien, quand on a les sitcoms qu'on a adorés, How I Met Your Mother, allez, à la rigueur, Friends peut-être sur... Oui, je sais, il y a l'exception un peu, Friends se tient un peu...
Mais elle s'est effondrée.
C'était la catastrophe. Après la saison, la saison 5-6, c'était vraiment la catastrophe. Est-ce qu'on a envie de voir The Good Place arriver à la catastrophe? Non. Enfin, moi j'aimerais voir 4-5 saisons.
Parce que regarde, la fille est trop contente.
Michael Schur, j'ai lu un article où Kristen Bell dit que Michael Schur lui a dit la fin de The Good Place. Donc il connaît la fin, c'est déjà pas mal.
Est-ce que ce sera un twist, la fin de The Good Place?
Il y a des chances, c'était tout dans la tête de quelqu'un. Ça va être un truc vraiment un peu...
À la Lost, un twist horrible à la Lost.
Ou à la Saint Elsewhere. Mais bon, en tout cas...
Juste pour dire que on parle des sitcoms qui vieillissent mal. En l'occurrence, les sitcoms sur lesquels a travaillé Michael Schur, elles ont...
Pas mal vieilli.
Elles se sont un peu éreintées sur la fin, mais elles nous ont quand même donné des séries cultes. Donc j'ai envie juste de dire ça.
Non, mais puis les gens en ont besoin.
Le CV du monsieur. Moi, j'ai foi en lui. Mais le concept, il va finir par s'user, mais il faut qu'il parte au bon moment.
Et nous aussi, on va partir au bon moment. Ça sera la fin de cet épisode 84 de Un épisode et j'arrête consacré à The Good Place, à suivre en France sur Netflix et sur NBC aux États-Unis. Merci à Marie Turcan de Numérama, à Delphine Rivet, Marion Olité de Combini et à Quentin Bresson qui était à la technique cette semaine. Lundi prochain, on parlera de sexe. Dans un épisode et j'arrête, je répète, on parlera de sexe dans toutes les positions, à commencer par celle de sexe-éducation, mais pas que. D'ici là, foncez, likez nos comptes ACS et Un épisode et j'arrête sur Twitter et Facebook, c'est bon pour la libido, paraît-il. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.
Next one. Whoa, wait. That's the last one.